Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La fragilité, une bonne nouvelle, telle pourrait être le titre de l'émission Vivante Église Cinéma de ce mois de janvier. Un thème récurrent sur une radio comme la nôtre, mais un peu audacieux, avouez-le, par les temps qui courent. La fragilité de l'amour face aux puissants, la fragilité du royaume des cœurs purs avec le roi et l'oiseau de Paul Grimaud, la fragilité de l'homme, du père de famille, au travers de laquelle la vie peut faire cependant des merveilles avec la graine et le mulet d'appellatif Kéchiche et la fragilité de l'enfance qui révèle aux adultes que nous sommes tant de choses, parfois les plus profondes avec Ponette de Jacques Doyon. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi, avec nos messieurs cinéma, privés de cinéma mais fidèles au poste, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Bonne année Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bonne année.
Bonne année et bonne année pour le cinéma. Et Louis-Marie, vous nous avez fait la chronique au début janvier dans la matinale avec 2-3 chiffres sur l'état du cinéma français. Et en vous entendant le matin, j'écoute le poste pendant que l'émission de Vivante Église se prépare, vous disiez que c'est la pire année depuis l'après-guerre, c'est ça?
Oui, exactement, depuis la première guerre mondiale.
Après, voilà, c'est ce que je disais à Paul avant l'émission, je disais, j'ai pas dû bien entendre.
Oui, à l'époque du cinéma muet et de la grippe espagnole, c'est le seul moment où ça avait fait pire que maintenant. Oui. Les cinémas, en 2020, ont été fermés pratiquement la moitié de l'année, entre les deux confinements, ce qui fait énorme. Ils ont perdu plus de 70% des spectateurs, 70%, 80% de leur chiffre d'affaires. C'est catastrophique.
On peut les aider ou pas? Regarder des bons films, même chez soi, ça les aide indirectement ou pas?
Indirectement, pas vraiment. Non, parce que après, vous savez, les cinémas sont des entreprises et ça coûte de l'argent et c'est l'argent dont ils ont besoin. L'argent, finalement, c'est le nerf de la guerre.
Eh bien, on va continuer à parler cinéma quand même, comme ça, ça nous donnera encore plus envie de nous précipiter dans les salles obscures lorsqu'elles rouvriront enfin. Premier film, c'est Le Roi et l'Oiseau, donc ce n'est pas le film à l'affiche, loin s'en faut, puisqu'il est sorti il y a quelques années. C'était donc en 1980, mars 1980, même s'il y avait une version avant. On va le voir, Le Roi et l'Oiseau, c'est de Paul Grimaud. On va tout de suite écouter la bande-annonce.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 fonds 8 et 8 fonds 16 de Taquicardie. Chéri, papa est là qui veille, papa qui veille au grain. Dormez, petite merveille.
Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps.
Alors on pourrait continuer à l'écouter, mais elle donne à entendre un peu le monde, l'univers de ce on dit quoi, un dessin animé?
Ah oui, c'est un dessin animé.
Un film d'animation français donc de Paul Grimaud, mais ça ne raconte pas forcément l'histoire. Alors l'histoire, c'est donc le roi Charles V, 3 fonds et 3 fonds 8 et 8 fonds 16 règne en tyran donc sur le royaume de Taquicardie, ça a été dit. Et il y a un seul résistant, c'est un oiseau enjoué et bavard qui a construit son nid tout en haut du gigantesque palais de ce roi qui est un potentat. Et sa majesté, on va dire, règne en maître. C'est un roi amoureux d'une charmante et modeste bergère qui est sur un tableau et dont il rêve, qu'il rêve d'épouser en la regardant. Mais ça va ne pas se passer comme il le souhaite. Allez, l'histoire un petit peu plus, Paul Dima.
Alors, cette histoire est tirée d'un conte d'Andersen, mais qui a été complètement transformée par Paul Grimaud, puisque dans le conte d'Andersen et dans le premier film qui avait été réalisé, dans lequel Grimaud ne se retrouvait pas, la bergère abandonne son amoureux parce que elle a peur devant la liberté. Grimaud reprend le film donc, des années après.
Premier film sorti donc en 1949. 53, c'est ça?
Oui, ils ont commencé en 49. Et Grimaud reprend les droits sur le film, qu'il n'a pas signé d'ailleurs, hein, et il refait une mouture accompagnée de Jacques Prévert, excusez du peu, et de Cosma pour la musique.
Joseph.
Joseph Cosma, oui. Oui, la précision est...
Avec Vladimir, on a toujours cru qu'ils étaient de la même famille, pas du tout.
D'accord. Et donc, il fait une histoire qui ridiculise un monarque très très peu éclairé, qui règne en dictateur, et qui sombre dans la folie, qui est un peu comparable d'ailleurs à un dictateur comme Hitler, et qui veut assujettir tout le monde à son seul désir. Alors il y a le monde de son royaume, mais il se trouve qu'il y a un oiseau qui le nargue, et qui prend sous sa protection...
L'oiseau qui a souffert à cause de ce roi, puisque c'est ce roi qui a tué son épouse dans une chasse, je crois, c'est ça. Hein.
Oui, et puis qui va l'emprisonner, c'est le monarque ne laisse rien passer. Et comme il est amoureux de la bergère, celle-ci, dans l'histoire de Grimaud, part poursuivre son amoureux, et déclenchant la grande colère du roi, qui règne aussi sur un monde inférieur, un peu comme l'enfer de Dante, et qui massacre tout sur son passage. Et le roi oblige la bergère à l'épouser pour sauver la vie de son amoureux.
On va écouter un autre extrait qui met l'ambiance qui nous aide à entrer dans l'ambiance de ce royaume et de ce royaume gouverné par ce tyran, royaume de tachycardie, le roi Charles V. Son nom, c'est le roi Charles V ou il faut rajouter à chaque fois
non, 5 et 3 font 8 et 8 font 16.
8 font 16, ah oui, d'accord, à chaque fois.
Donc il est ridicule dès le départ.
Ça prend la place.
Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, soldes de coupons, famille royale, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'état à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, képi, trompette, brosse à reluire et tambour, gendarmerie, lavatory, manu militari, grandes armes.
Il y a de tout dans ce royaume. Hein. Alors Louis-Marie Solaire, qu'est-ce qui est passé? Donc, c'est donc un film d'animation qui a fait date dans l'histoire du dessin animé, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ce Paul Grimaud? C'est quand même pas un film comme les autres, j'ai l'impression que c'est comme un conte philosophique.
Ah oui, il y a de ça, c'était l'idée, comme l'a déjà souligné Paul, c'est de faire une adaptation de La Bergère et du Petit Ramoneur, mais en lui donnant un autre point de vue. Et cet autre point de vue, il avait bien en tête ce qu'il voulait, de sa collaboration aussi avec Jacques Prévert, ce dont on a déjà parlé, le fait qu'il y a eu des dissensions au niveau de la maison de production qui ne sont pas arrivées à faire très précisément le film qu'il désirait montrer aux spectateurs. Alors,
donc c'est un genre particulier de film d'animation.
Oui, c'est un genre. Il y a quelque chose. Il était tout à la fois Paul Grimaud, parce que au départ, il a commencé. Il est né. Je crois qu'il est né au début du siècle dernier. Et il se destinait pas forcément au film d'animation, au dessin animé. Hein, il a commencé, mais il a un moment pour le dessin. Il a bifurqué vers la communication, ce qu'on appellerait les agences de communication, la publicité, quoi. Mais bon, à l'époque, dans les années 30, la publicité n'avait pas la même pouvoir, encore que ça, on peut en discuter, puisque au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui ont su l'utiliser. Mais toujours est-il que, pour revenir à Paul Grimaud, il y avait toujours cette envie d'art, d'écriture, de dessin. Il dessinait beaucoup et à mettre en place et montrer cette idée et de balancer. Parce que bon, c'est l'histoire de la bergère et du petit ramoneur, mais en fait, c'est l'histoire. Le titre du film, c'est pas la bergère et le petit ramoneur, hein, c'est bien le roi et l'oiseau. Les personnages finalement centraux du film, ce sont le roi, imbécile, psychotique, despote, et cet oiseau, un peu crispant, hein, on l'entend dans sa voix, mais qui est la représentation même de l'amour, parce que il est là, c'est lui, et l'autre, c'est la tyrannie, quoi. On est entre les deux.
Paul Dima, j'ai cru comprendre que c'était, ça inaugurait donc des films d'animation différents qui s'éloignent des canons et styles de Walt Disney. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est...
Complètement, c'est-à-dire que Grimaud travaille beaucoup sur la force du dessin, mais comme symbolique. Par exemple, dans l'histoire, les deux personnages, non pas secondaires, mais de la bergère et du petit ramoneur, sont d'abord des tableaux. Et la nuit, ils quittent le tableau pour devenir des personnages d'animation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une représentation de la représentation, c'est-à-dire que... Et le roi aussi, d'ailleurs, se dédouble un moment, il brise son miroir, et il y a un avatar de roi qui apparaît.
Qui était donc, sur un tableau, lui aussi.
Qui était sur un tableau, et mis, reproduit à l'infini, pour dire, et en statue et en tableau, son besoin d'être présent partout et d'être adoré partout. Et donc, on est dans un jeu de pouvoir contre pouvoir où, en fait, l'oiseau, par le fait de ridiculiser le roi, va néantir sa toute-puissance despotique et démoniaque.
On écoute un autre extrait, c'est justement l'amour de cette petite bergère et de ce ramoneur. Ce sont deux tableaux, mais qui la nuit se parlent.
Qu'est-ce que tu veux ? On peut pas aimer tout le monde.
Surtout qu'on sait pas qui c'est.
Et toi ? Qui aimes-tu ?
Moi ? Je n'aime que toi. Et toi ?
Moi, c'est pareil. Je n'aime que toi aussi. Tu es le plus gentil ramoneur que j'ai jamais connu.
Tu es la plus jolie bergère que j'ai jamais vue.
Tu en as vu beaucoup d'autres?
Non. Je n'en ai même pas rêvé.
Oui-en, ma vieille expérience. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. D'abord, vous n'avez pas la même couleur. Une bergère et un ramoneur. Mais pas question. Pas question.
Alors tout le monde n'est pas du même avis, donc hein, il va dire que pour que leur amour existe, il faut aller envers et contre tous. Paul Dima, Louis-Marie, qu'est-ce que ça vous évoque cet extrait ?
Et c'est que, en fait, pour gagner la liberté et la liberté de s'aimer, les deux personnages vont devoir faire quelque chose de courageux. Et en fait, ils vont sortir du tableau. Ils vont sortir de... finalement d'une certaine, je vais dire, quiétude, c'est un peu exagéré, mais il faut prendre des risques. Et c'est justement là la belle différence, Paul en parlait avec le conte d'Andersen, c'est que là, la bergère, elle va prendre le risque, elle va sauter, elle va prendre le pas, elle aussi. Et le ramoneur également, et même le roi, hein, vous l'avez dit, le roi, il va avoir un avatar qui est encore pire que lui, mais encore... il est pire, mais finalement, il est finalement moins dangereux. Et en sortant du cadre de l'image, ils deviennent réellement un dessin animé. Ça, pour le coup, ils deviennent un dessin animé. Et on n'a de cesse de leur dire, leur rappeler les règles du conte de fées, c'est que les rois épousent les bergères. Hein. Ils épousent les bergères, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, classique. Et les petits ramoneurs sont des petits ramoneurs de rien du tout. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et tout ça fait que... Eh ben, ils sont courageux et ils s'aiment vraiment beaucoup.
Paul Dimas, si c'est un conte philosophique, quelle est la philosophie qu'il faut en tirer ou quelle réflexion philosophique on peut en tirer ?
C'est que la liberté dépasse tous les projets, mais n'est pas sans risque. C'est-à-dire que, comme l'a dit Louis-Marie, la bergère et le petit ramoneur vont traverser comme une descente dans les enfers. Hein. Il y a une terre souterraine, mais il y a aussi, et c'est intéressant, une alliance avec les animaux. Quelque part, c'est les animaux aussi qui vont les sauver. Parce qu'à la fin du film, le despote envoie une espèce de machine, un énorme robot qui écrase tout sous son passage. Eh bien, ce robot va échapper à la toute-puissance qui le téléguide et va permettre que, eh ben, un moment, il s'arrête, il est épuisé sur un tas de ruines. Donc, l'univers imaginé par le roi et pensé par le roi despote s'écroule et c'est un autre monde qui apparaît.
Voilà, les cœurs purs et, on va dire, et la création unie, ça ressemble presque à, on va dire, au Jardin d'Éden. Hein. C'était probablement comme ça que ça se passait. En tout cas, c'est la foi des chrétiens et qui triomphe de tout cela. Le Roi l'Oiseau, c'est donc de Paul Grima et c'était votre premier choix. On va faire une première pause. Louis-Marie,
ben, c'est un extrait de la bande originale du film, signé Joseph Cosma.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est votre émission cinéma en ce vendredi, émission cinéma en tout cas Vivante Église, avec nos deux intervenants, deux habitués, Paul Dimas, intervenant cinéma pour les Coteaux Pays, Centre Jésuit dans le Sud-Ouest, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission. N'oubliez pas l'ouvreuse et donc pas de ciné-parole, évidemment, dont ils sont tous les deux responsables. Ce club, on va dire, ce comment vous dites déjà ?
Bah, c'est Paul qui a trouvé la
ciné-parole.
Définition.
Ciné-parole.
Ciné-parole, c'est un temps de discussion à la fin d'une projection, voilà. Au cinéma l'ABC.
Au lieu de parler sur le trottoir, on parle dans la salle.
Parle dans la salle. Ça reviendra dès que l'ABC aura réouvert, l'ABC à Toulouse, cinéma d'art et d'essai. Deuxième choix, donc, La Graine et le Mulet, c'est notre catégorie chef-d'œuvre humaniste. C'est un film donc franco-tunisien de Abdelatif Kechiche qui est sorti en 2007. On commence par écouter la bande-annonce.
Ça fait 35 ans que je travaille, entre la mer et le chantier.
Et alors ? T'es plus rentable. T'es fatigué et tu nous fatigues.
Non mais attends, c'est honteux.
C'est comme ça. Regarde, il y a deux fois moins de bateaux qu'à 10 ans. Donc forcément, il y a moins de boulot.
Fais bisous à Pépé.
Puis un jour, il n'y aura plus de bateaux de pêche, il n'y aura plus de chantier et puis il n'y aura que des touristes.
Oh, mon père, on va monter là.
Bon appétit, la famille.
Merci.
On sent que c'est fait avec amour. Hein.
J'ai laissé aussi une assiette pour votre père cet après-midi. Vous allez, les garçons.
Moi, je vais la écrire.
Papa, c'est un bravo, maman. Il mérite bien plus que ça. Il hein. A trimé 35 ans pour sa famille.
Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite.
Qu'est-ce qui t'arrive?
T'es jeune. T'aimes la vie, la liberté. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien laissé, ni pour toi, ni pour mes enfants.
Pourquoi tu dis des trucs pareils?
Je sais pas comment tu fais pour continuer à vivre ici, hein, dans ce taudis. Tu devrais rentrer au bled.
Au bled, t'as tout ce que tu veux. T'as le soleil, t'as tes amis d'enfance.
Franchement, ils sont trop durs, tes fils, hein. Ils veulent te jeter comme une merde, hein. Tu es chez toi, ici. Et nous, on est ta famille, non? Franchement, moi, t'es comme mon père, la vérité.
T'es pas au courant que Slimane va ouvrir un restaurant sur un vieux bateau?
Dis-lui qu'on l'aide, c'est un ami.
Vous avez déjà tenu un restaurant?
Non, madame.
Vous l'avez, le prêt? Vous l'avez pas?
Et pour les frais de fonctionnement?
De toute façon, pour eux, du moment que c'est pas une mosquée...
Monsieur Béji.
Allez, Inch'Allah, alors, comme on dit. Le jour qui est peut-être le plus important de sa vie, toi, tu te laisses tomber comme un chien. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as honte ou que tu as quelque chose à te reprocher?
Il s'en fout que je vienne pas.
Il s'en fout pas. Il m'a demandé tout à l'heure si tu allais venir, le miskin. Mais arrête de croire que tu es le centre du monde, toi. Les gens ne pensent pas qu'à toi toute la journée, tu crois quoi?
Bah si, c'est pareil. Toi ou moi, c'est pareil.
Tu sais pourquoi il fait tout ça, lui? C'est pour toi, pour ses enfants. C'est pas pour lui-même, hein.
La Graine et le Mulet, donc c'est d'Abdelatif Kechiche. Alors l'histoire, on la devine bien. C'est un monsieur Beji, qui a la soixantaine, fatigué, qui travaille sur un chantier naval, c'est à Sète, sur le port de Sète, qui perd son travail, père de famille divorcé, qui traverse, on va dire, une crise, comme on l'a entendu. On ne peut pas dire que la famille soit toujours tendre avec lui, et puis cet homme va se relever et va donc avoir un rêve d'ouvrir un restaurant sur un bateau. Paul, qu'est-ce que vous diriez en complément ?
Alors, c'est oui, raconté comme ça, c'est une histoire toute simple, sauf que la réalité est extrêmement plus complexe. Ce père est à la fois le père, le grand-père, l'homme, l'amant aussi, l'homme adoré, mais l'homme aussi sur lequel auquel on adresse plein de reproches parce qu'il est cartelé entre ces deux familles qui se détestent cordialement ou se jalousent. Les enfants, entre autres, du premier mariage et ceux dont il a hérité dans le deuxième mariage. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que très rapidement, le spectateur se rend compte que le projet dans lequel il se lance, est pour le moins audacieux et a sans doute peu de chances d'aboutir, et pas simplement à cause d'embarras administratifs. Mais il est tellement pas préparé à ça, il n'a jamais été hôtelier, il ne sait pas ce que c'est, il n'a pas d'argent pour... voilà. Et malgré tout, eh bien, il arrive et le but du film, c'est de faire une séance inaugurale avec toutes les autorités publiques de Sète, pour les inviter, leur dire « voilà, ça y est, j'ai réussi ». Et évidemment, au moment de cette invitation officielle...
Ne dites pas la fin, quand même.
Eh bien, il y a un vide et je vais m'arrêter là. Et on ne sait pas comment ça va pouvoir se terminer.
Alors, le journal du dimanche, avec une telle maîtrise de la caméra et sa remarquable direction d'acteur Abdelatif Kechiche a déjà marqué le cinéma français. Libération, l'auteur de L'Esquive éblouit avec un nouveau film ambitieux, croisant énergie populaire et audace expérimentale. C'est un film qui a eu un nombre incroyable de prix. Louis-Marie Soler, que dit le cinéphile que vous êtes ?
Ah ben oui, des prix, il en a eu, puisqu'on en parle, à commencer par les Césars, les deux plus prestigieux, meilleur film, meilleur réalisateur. Et puis dans toutes les manifestations où il est passé, il a glané un prix, soit pour le film ou son réalisateur, soit pour les interprètes, et une interprète en particulier, Afzia Erzi, qui joue le rôle de la toute jeune belle-fille de Beji, la fille de sa maîtresse, qui c'est une grande ado.
Oui.
C'est une grande ado. Oui, ce qui est beau dans ce film et dans le cinéma de Kechiche en particulier.
Oui, c'est ça. En général, Kechiche, vous pouvez nous aider un peu à.
Kechiche, il avait marqué en réalisant l'Esquive, dont JDD ou Libération faisait référence. Et puis après, il en a fait encore d'autres. On se souvient de La Vie d'Adèle, qui avait aussi soulevé quelques controverses. Mais c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma, qui sait filmer, qui sait diriger. Et là, il manipule bien toute la grammaire cinématographique. Il y a le récit, avec les règles du récit, à savoir un personnage, il y en a un, qui se trouve confronté à une difficulté, il perd son travail. Bon, alors, il a un objectif, il va ouvrir un restaurant. Il a des obstacles à franchir, pardon, les difficultés pour justement ouvrir ce restaurant. Mais en fait, le suspense, il ne réside pas trop là-dedans. Il réside dans les autres scènes qui viennent en complément du récit, c'est à savoir quand il y a toutes ces scènes de famille, puisque lui, il a une famille avec... Il a une femme et des enfants et des grands-enfants avec lesquels il ne vit plus. Ils ont divorcé. Il a une maîtresse. Il a des amis. Et alors, chaque fois, c'est l'objet de scènes qui sont assez éblouissantes. En particulier, c'est la scène centrale du couscous de la famille où le couscous est...
Donc, repas de famille.
Oui. Alors, c'est typique. C'est le titre.
Sont réunis, du coup, les deux familles
Non, seulement la sienne. Oui. La première. Parce que le couscous, c'est quelque chose qui rassemble. C'est central, c'est ce qu'on va manger, mais il rassemble. Pourquoi ? Parce qu'on le prépare ensemble pendant des heures et avec attention. On se réunit à table, on pense aux absents. Mmh. On l'entend dans la bande-annonce. On prépare une assiette pour le père qui n'est pas là. Et à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on mange, les langues se délient. Et là, on apprend des choses. Et là, on découvre des autres facettes du personnage.
C'est ce qu'on entend dans la bande-annonce. Si ça continue, je vais sortir les dossiers.
Oui, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est là toute la force et la grande maîtrise de Kechiche, c'est qu'il utilise le récit traditionnel, classique, et il rajoute ça. Et c'est ça qui fait toute la force et la puissance de son film.
J'ai vu dans les cahiers du cinéma, sixième, je vais y arriver, meilleur film des années 2000 et meilleur film français de la décennie pour les cahiers du cinéma. Alors pourquoi c'est un très beau film et voir un chef-d'œuvre, Paul Dima, puisque vous l'avez choisi pour cette catégorie?
Parce que justement, il montre la complexité de chaque personnage qui est pris. Alors il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a des jeux d'interaction qui s'expliquent par leur histoire familiale, mais l'histoire aussi, par exemple, des immigrés venus en France, première génération, deuxième, troisième génération, par les rivalités intrafamiliales, par le fait de femmes qui se plaignent de leur situation où les maris les trompent éhontément, par un fils de Slimane, justement. Et Slimane est ballotté entre tout ça, mais en même temps, il est comme un pivot sur lequel on peut aussi s'appuyer, mais il reste toujours un peu en retrait. On pourrait dire qu'il n'ose pas s'affirmer. Il
subit. Il donne l'impression de subir par moment.
Oui, par moment, il subit, mais il continue quand même. Il essaie de continuer son chemin et en veillant sur les siens. Il est attentionné.
Afzia Erzi, vous pouvez nous en dire un peu plus, là, cette jeune actrice qui joue Rim, qui est donc la fille de sa maîtresse, c'est ça?
Ou la fille de sa maîtresse, c'est la fille de voilà. Oui, sa compagne.
Sa compagne.
Afzia Erzi...
Et qui a eu beaucoup de prix, et qui était jeune.
Et une belle carrière maintenant, elle a grandi.
Et une belle danse du ventre à la fin.
Ah oui, magnifique. Ouais. Magnifique, elle a joué dans bon nombre de films, et une belle carrière, hein, ça ne s'est pas arrêté là. Et elle est même passée derrière la caméra, puisque au dernier Festival de Cannes, celui qui a eu lieu, donc c'était en 2019, elle présentait son film. Alors, c'était dans une section parallèle, mais elle présentait son film. Et quand le film passe par la croisette, c'est toujours un formidable coup de projecteur. Et elle sait raconter des films, elle aussi. Donc c'est une jeune femme, une jeune actrice et réalisatrice maintenant qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention.
Louis-Marie Soler, le mot de la fin, peut-être la graine et le mulet, c'est quoi le rapport avec la choucroute là ?
C'est un rapport, non pas avec la choucroute, mais avec le couscous.
Oui, c'est
la graine pour la graine qu'on mange.
La semoule.
Et la semoule, oui. Mmh. Et le mulet, c'est pas l'animal à quatre pattes, mais c'est le poisson.
Oui.
Parce que ce qu'il veut faire dans son restaurant, Slimane, c'est un couscous au poisson. Et le poisson qu'il mettra dans son couscous, c'est du mulet. Voilà pourquoi le titre est la graine et le mulet, oui.
Et le fait que ça soit une famille, apparemment d'origine étrangère, ça n'a aucune incidence dans le film, en fait. Vous n'en parlez pas parce que c'est...
Non, c'est ça, l'incidence, pourquoi ? Parce que Kechiche est d'origine nord-africaine et que le personnage central n'est pas sans rappeler son père. Donc, c'est le réalisateur. Mais on a comparé ce film, justement, à la façon dont il raconte l'histoire et à la façon dont il montre ses réunions de famille, il montre ses personnages, on l'a comparé à Piala. Piala qui, lui aussi, savait mettre les personnes en scène et placer sa caméra et diriger pour que l'intrigue, l'histoire progresse de façon tout à fait naturelle. Et je voulais juste ajouter une chose, c'est que ce personnage de Slimane, il est là pour veiller sur tout le monde, mais en fait, la plupart du temps, il dit rien. Il dit rien, et donc c'est lui le catalyseur, c'est-à-dire qu'il dit rien, donc les autres parlent à sa place, et en parlant à sa place, eh bien, on apprend tout ce qu'on ignore.
C'est en même temps, parce qu'il se tait, qu'on découvre la complexité de tout ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est très fort.
Je ne sais pas quelles leçons il faut en tirer, mais en tout cas, c'est comme ça. La graine et le mulet, c'est donc votre coup de cœur, chef-d'œuvre humaniste du mois. D'Abdelatif Kechiche, sorti en 2007, à revoir l'extrait musical du mari.
C'est la scène finale sur le bateau qu'a si bien décrit Paul Dima. Et là,
les gestes, hein.
Avec les gestes.
C'est Afzia Herzi qui danse.
Afzia Herzi qui danse.
Pardon, dans le film.
Rime, oui, bien sûr. Oui.
عودي وعطولي سرجوني عاودي وعطولي اللي قيمة سرجوني عاودي وعطولي اللي ما باش تركب علي القيد حليمة هنا بهي هنا خير من هي طام العب العقلة والنشاطة في قيمة
Pella.
Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église. Vous êtes bien sur Radio Présence, on a laissé filer la bande-annonce, on s'est fait plaisir. Paul Dima, intervenant cinéma autour du plateau pour les Côtes au Pays et Centre Jésus dans le Sud-Ouest, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence. N'oubliez pas l'ouvreuse, troisième film de notre mois de janvier, pour reprendre ce thème de la fragilité. C'est Ponette de Jacques Doyon. Voilà, c'est le chef-d'œuvre spirituel du mois. Allez, on écoute la bande-annonce.
Ta maman, elle est morte. Tu sais ce que ça veut dire ?
Il était une fois une petite ponette qui avait perdu sa maman.
Maman !
Elle l'appelait.
Tu viens voir ?
Elle l'appelait encore. Elle la cherchait toujours, mais jamais sa maman ne venait.
Elle viendra pas, Ponette.
Si elle viendra.
Elle est au ciel avec Jésus, disaient les uns. Elle est bien enterrée sous la terre, disaient les autres.
Mais il y a des petits trous dans la terre. Tu peux revenir.
Ponette, elle, elle savait bien qu'un jour elle trouverait sa maman.
Ponette, c'est donc un film de Jacques Doyon, c'est sorti donc en 1996. L'histoire, on l'a compris, c'est une petite fille qui s'appelle Ponette. C'est son vrai nom ou c'est son surnom ?
Non, c'est son prénom.
4 ans, elle perd sa maman dans un accident de voiture et c'est, on va dire, c'est l'histoire de la manière dont cet enfant essaie de vivre son deuil, pris entre des explications fort variées autour d'elle, données par des adultes, que ce soit sa tante religieuse, son père plutôt naturaliste, et puis les interventions de ses camarades et autres, et cette petite fille qui essaye d'avancer et qui espère, comme on l'a entendu, que sa maman va revenir, disant « il y a des petits trous dans la terre, peut-être va-t-elle passer par là ». Allez, Paul Dima.
C'est un film très, très surprenant et très prenant sur la douleur de l'enfermement vécu par cette petite fille de 4 ans qui est perdue et qui attend sans arrêt et recherche sans arrêt sa maman. Et rien ne peut la détourner de cette idée « ma maman va revenir, je veux revoir ma maman ». Et Doyon élimine très rapidement les adultes du sujet du film. C'est-à-dire qu'au début, ils apparaissent un peu. Là, on a entendu le papa qui annonce « ta maman est morte ». On entend sa tante Claire, chez qui elle est hébergée dans un premier temps, qui lui dit « mais non, ta maman ne reviendra pas. Si elle reviendra ». Et puis, elle entend tous les commentaires et après ceux des enfants qui se posent des questions métaphysiques ou qui font leur monde imaginaire autour de leur rapport avec les morts, où ils sont, etc. Et c'est extrêmement violent pour cette petite fille qui ne sait plus. Elle est perdue. Elle est perdue, mais elle espère infiniment que voilà, sa maman va revenir. Et elle entre en communication avec elle et tout lui est bon. Il y aura une petite... une copine qui, on lui dit, c'est une enfant de Dieu. Ah, alors Dieu Tout-Puissant, elle fait des prières à Dieu Tout-Puissant, fais-moi voir ma maman, etc. Et la petite fille profite de son statut de fille de Dieu, dit par les autres, pour lui faire subir des épreuves qui vont lui permettre de rejoindre sa maman par Dieu. Et c'est très violent. Enfin, on regarde ça...
On va peut-être écouter, alors je ne veux pas vous couper la parole, Louis-Marie Soler, on va écouter un autre extrait qui aide à rentrer dans ce film si particulier, donc le deuil vécu par une fillette.
Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Tu sais que ma maman est morte parce qu'elle est avec toi. Et je parle avec ma maman. J'essayais, je n'ai pas pu. Elle m'a jamais répondu. Je lui ai dit de me parler. T'as vu maman? Je parle au Dieu Tout-Puissant. Je te fais des gros bisous.
Louis-Marie Soler, le cinéphile que vous êtes, c'est une scène incroyable, non?
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de scènes comme ça dans l'histoire du cinéma.
Il faut dire que là, Jacques Doyon a mis sa caméra où il fallait et il a dirigé comme il fallait ses enfants parce que son parti pris, d'abord, il met cet enfant dans une situation terrible. C'est d'une cruauté incroyable, puisqu'il fait endurer la violence de la mort de sa mère par une enfant de 4 ans. Et après, il évacue tous les adultes. D'ailleurs, on ne connaît même pas le prénom du père, on ne connaît pas le prénom de la tante, et tout est filmé à hauteur d'enfant. Et tout est supporté par ses épaules. Alors, on peut évacuer complètement, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, toute l'imagerie qu'on a sur l'enfance, d'onctuosité, les enfants, ils sont pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est toute cette enfance qu'on n'a pas envie de voir. C'est les idées fausses qu'on a sur l'enfance, qu'on espère immobile. Et non, elle réfléchit, elle a ses problèmes, elle veut voir sa mère. Et puis, comme l'a dit Paul, les autres enfants, son cousin et sa cousine, et puis les autres enfants de l'école, ils sont cruels avec elle. Hein, ils lui font pas de cadeaux, hein, et puis ils lui font endurer des choses. Et elle, elle est inflexible, elle est extrémiste, elle est prête à tout pour arriver à ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est voir sa maman.
Alors c'est un film qui a été récompensé, donc la Mostra de Venise en 1996, la coupe Volpi pour la meilleure interprétation féminine qui a été donnée à cet enfant, et à l'époque ça a fait un peu jaser,
oui.
Parce qu'il peut aussi de prime abord, semble-t-il, y avoir quelque chose de choquant à faire vivre à une enfant de 5 ans, elle avait 5 ans, la petite fillette en l'occurrence.
Non, quand elle a reçu le prix, elle avait 5 ans, mais quand elle a joué, elle avait 4.
Voilà, donc on peut imaginer qu'elle n'était peut-être pas armée pour encaisser tout ça. Bref, ça a fait jaser quand même, il faut le dire.
Oui, et puis ça a fait jaser d'une part pour ce que vous dites, et aussi par le fait qu'elle ne comprenait pas trop ce qu'elle faisait, et elle ne comprenait pas la valeur du prix aussi. C'est ça, il y avait cette partie, on disait... Les esprits chagrins disaient, elle peut pas comprendre à quoi ça correspond. Néanmoins, elle est extraordinaire. C'est cette enfant, Victoire Tivisol, c'est le nom de cette jeune actrice qui a grandi depuis.
Et qui est restée une actrice.
Oui, qui a eu des fortunes diverses, mais ça c'est une autre histoire.
J'ai trouvé un article du Parisien où elle est, dans lequel elle est interviewée et elle dit que c'est pas un film qui l'a traumatisée.
Non,
ceux que ça inquiéterait, ça, c'est pas
non,
le cas.
Non, elle a continué, mais la difficulté, là c'est juste une parenthèse, c'est toujours le problème avec les enfants stars, entre guillemets, c'est-à-dire arriver à continuer à jouer en grandissant, parce que forcément, le rôle qu'on leur a confié à cet âge-là est difficile, et grandir et trouver d'autres rôles à la mesure et de ce qu'elle avait fourni à cette époque-là, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, elle, dans le film, elle est extraordinaire. Elle est de tous les plans. Elle est dans tous les plans. Elle tourne la tête, elle est tout le temps, partout. Et c'est vrai, c'est extraordinaire. Et je crois que Doyon a dit, cette petite fille était si méritante, c'était une telle résistante que je devais lui rendre tout ce qu'elle avait donné avec une telle ferveur. Tout est dit, il lui a rendu et ça fait ce film.
On va écouter un autre extrait, puisque cette petite fille finit par voir sa maman, ou en tout cas avoir le sentiment de dialoguer avec elle, sa maman qui est jouée par Marie Trintignant.
Oui, tu vas réussir.
Elle était toute cassée, tu sais. Il n'y avait rien à faire. Rien.
Mais nous consoler, nous deux.
Oui, je veux.
Je t'ai cherché avec Dieu.
Je sais. Mais quand j'ai senti que je pouvais mourir, j'aurais pu résister, mais c'était plus facile de se laisser aller. J'ai pas lutté. Je me suis laissé faire. Oh, je sais que c'était pas bien pour toi. Mais je pensais plus à toi. J'étais devenue une...
Tu vas rester avec moi.
Mais non, je suis morte, moi.
Et plus maintenant.
Si, je suis quand même un petit peu morte.
Si tu vas pas, ils vont t'oublier.
Mais ils peuvent pas m'oublier.
Si on se cache bien. Si. Tu vas te cacher avec moi.
Ma tête a tapé sur le volant et tout s'est cassé. Toute ma poitrine s'est cassée contre le volant. Tu sais ça?
Oui.
Faut que tu partes maintenant. Il y a papa qui est venu pour te chercher.
Voilà, alors pardon, hein, c'était pas coupé comme il faut, mais vous avez entendu l'essentiel. C'est une scène qui est terrible. Moi, en fait, ce qui m'est venu, Paul Dima et Louis-Marie Soler, c'est que cet enfant, elle nous fait découvrir, puisque c'est votre choix aussi de chef-d'œuvre spirituel, elle met en lumière, là on a l'impression de le voir, enfin de l'entendre, aussi les scandales sur lesquels, au-dessus desquels on passe, les scandales de la foi chrétienne, donc en tout cas ces paradoxes qu'on essaie de tenir en Dieu, qui dans le fond sont parfois insolubles, c'est-à-dire que nous les chrétiens, on croit qu'en fait quand on est mort et qu'on est dans le royaume de Dieu, on souffre pas. Cette maman, ça va, elle va bien, mais du coup il y a une violence par exemple dans ce discours, comme la scène de la prière, quelque part tout à l'heure, un Dieu Père qui permet ce genre de choses, on entend les cris de cet enfant, est-ce que c'est pas aussi la vertu de ce regard d'enfant ?
Oui, tout à fait, il vient bousculer un peu notre sécurité de croyant, c'est-à-dire que dans ses pleurs et le cri et la quête de cette petite fille, il y a un enfant qui ne veut pas accepter les choses comme elles sont, et parce qu'elle a trop besoin de sa maman. Et de fait, c'est très violent quand à un moment on lui dit « Mais quand je suis morte, tu sais, je pensais pas à toi, hein, j'étais content de partir. » Mais en même temps, alors l'extrait ne permet pas de tout entendre, elle rejoint la quête de sa fille, même si c'est dans l'imaginaire. Hein, on ne sait pas trop. Là, d'ailleurs, au niveau de l'image du film, c'est complexe, parce qu'on voit l'image, mais qui est traité autrement, et la fille et la mère, hein, où elle est venue dans le cimetière pour creuser la tombe pour aller rejoindre sa maman, et tout d'un coup, à l'image, eh ben, il y a elle et sa maman, et ce dialogue qu'on entend. Donc quelque part, elle répond à l'attente de sa fille, et elle l'a reconduit dans sa vie à elle, c'est-à-dire que la morte lui permet d'aller de l'avant et de vivre à nouveau en ayant répondu à son désir d'une rencontre qui lui permet de passer de la mort Ah, elle lui dit, mais je suis un petit peu morte quand même. Mais va rejoindre ton papa, ton papa t'attend.
Elle dédramatise la mort aussi, d'une certaine manière.
Elle dédramatise la mort et elle comble en partie, ou elle permet à sa petite fille, plutôt que de combler, d'habiter autrement le vide qu'elle ressent.
Louis-Marie Solaire, c'est un chef-d'œuvre ?
Oh oui, oui, oui. Oui, oui,
pas seulement par l'originalité du propos.
Non, pas seulement par l'originalité du propos. C'est du cinéma, c'est-à-dire que c'est le cinéma dans sa plus belle définition, de savoir raconter une histoire, mettre en scène des personnages, arriver au bout, mettre le spectateur dans une situation. C'est un film au cours duquel le spectateur est pas à l'aise. Hein. Il n'est pas à la bonne place, l'adulte en particulier, parce que les adultes, ils sont pas bons là dans le film. Ils sont pas bons dans le sens, je dis pas bon, ils sont pas bons pour elle. C'est-à-dire qu'ils ne lui viennent pas en aide. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Bon, parce que ils sont démunis et désarmés, autant qu'elle. Hein. Donc elle peut pas trouver de réconfort auprès d'eux parce qu'il faut qu'elle se débrouille toute seule. Elle a 4 ans, elle doit se débrouiller toute seule. Et c'est terrible. Et cet enfant va arriver à surmonter parce que finalement, elle est déterminée. Je dis qu'elle était une extrémiste, elle va aller au bout, elle ira au bout. Et
l'amour,
elle y arrive.
L'amour est inflexible.
Voilà. Et elle est lucide aussi. Donc, elle est diablement forte, elle est plus forte que les adultes.
Divinement forte, vous voulez dire.
Oui, pardon, divinement forte, c'est mieux de le dire comme ça, oui. Et effectivement, et donc, pour ça, et pour la façon dont Doyon a tiré le meilleur parti de son histoire et de ses enfants, parce que les enfants aussi dans la cour de récréation, c'est assez solide, il a fait quelque chose de magnifique, oui.
Paul Dima, chef-d'œuvre.
Oui, tout à fait, qui nous place, nous adultes aussi, devant un mystère, celui de la détermination de la foi des enfants, même si on peut dire que c'est une foi qui pose aussi des questions, mais de leur détermination à leur besoin de vivre et de vivre reliés. Et ça, c'est plus fort que tout pour eux. Et même si les adultes ont des réponses qui ne vont pas ensemble, parce qu'elle entend de tout, une chose et son contraire, et donc elle est déstabilisée, mais en même temps, ça ne touche en rien à sa volonté de continuer à vouloir créer le lien avec sa mère.
C'est beau ça, c'est leur détermination à vivre reliée. Il y a bien des choses à dire sur ce beau dernier commentaire. Eh bien, merci messieurs, je rappelle les trois films. Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, et non pas Grima. Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche et Ponette de Jacques Doyon. Rendez-vous le mois prochain, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.